Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. L'un des miracles les plus merveilleux, les plus fascinants et les plus touchants est celui de la naissance d'un petit homme. David s'émerveillait d'un si divin prodige. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une création ou une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, versets 13 et 14. David, en plus d'honorer son Créateur, honorait sciemment ou inconsciemment sa mère et toutes les mères. Il s'émerveillait du processus de notre gestation et de notre naissance. Dans le plan divin, les mères occupent une place très spéciale. Elles ont un rôle biologique au symbolisme spirituel très profond. Demain, 30 mai 2021, sera célébrée en France la fête de toutes les mamans. J'en profite donc pour souhaiter à toutes nos mamans une heureuse fête des mères. En cette fin de semaine, nous vous honorons d'une manière très spéciale. Aujourd'hui, nous rendons donc plus spécialement hommage aux mamans. Mais au fil des minutes qui s'égrènent, je voudrais que vous réfléchissiez mentalement à d'éventuels parallèles à ce que nous allons couvrir. Autrement dit, que vous ne vous limitiez pas à ce que déclare la Bible sur le rôle des mères dans la création divine, mais que vous gardiez présent à l'esprit le rôle que pourrait bien jouer une autre mère. Et je préciserai ma pensée dans quelques instants. Être maman est une lourde responsabilité. Dans la Bible, la mère occupe une place de choix dans la création. Elle représente aussi un idéal et une réalisation divine colossale. Le rôle pédagogique de la mère est énorme. Si l'homme est le chef de la famille, étant le principal responsable devant Dieu de l'éducation de ses enfants dans la voie divine, la femme a aussi pour sa part un rôle clé. Et de par sa fonction biologique, son influence est énorme sur le développement de tout être humain. Son enseignement affecte considérablement le fruit de ses entrailles et l'avenir de ses progénitures. Feu le président américain George Washington disait « Tout ce que je suis, je le dois à ma mère ». Biologiquement, il est certain que nous pouvons tous dire la même chose, car sans mère, nous ne serions pas là. Moralement et dans notre éducation jusque dans l'âge adulte, nous sommes le produit d'années d'enseignement, d'amour et de dévouement que nous ont donné nos mamans. Notre plus grande bénédiction, à nous autres, prémices du plan divin de salut, est d'avoir été appelés de connaître la vérité divine. L'auteur et aviateur Antoine de Saint-Exupéry a écrit que « s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. » Je trouve cela beau et tellement vrai. Il parlait évidemment du couple, du sien, mais sa déclaration doit prendre pour nous autres une autre dimension. Nous aimer entre nous en tant que frères et sœurs en la foi, c'est aussi et avant tout regarder dans la même direction, voir les choses comme notre Père Céleste les voit. Frères et sœurs, voyons-nous les choses à sa façon? Une bonne épouse, c'est aussi une bonne mère. Une maman qui a su s'acquitter de son rôle chrétien d'éducatrice, qui a su épauler son mari et le seconder. Quand nous lisons certains passages, ce qui est frappant, c'est la part que les femmes jouent dans l'éducation des enfants. Prenons celui-ci par exemple. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à Proverbes chapitre 6 et le verset 20. Proverbes 6 et le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le rôle de la mère transcende sa fonction biologique humaine. La mère a un rôle pédagogique énorme. Mari et femme ont un rôle clé dans la formation des futurs enfants de Dieu. Et la femme, de par sa présence plus fréquente auprès de l'enfant, dans sa croissance, exerce un impact considérable sur le développement de son caractère. Deutéronome chapitre 30, verset 11, maintenant, Deutéronome chapitre 30 et le verset 11. Deutéronome 30, 11, Dieu dit, je cite, « Ce commandement ou cette loi, c'est une meilleure traduction, la plupart des Bibles n'ont pas réellement la meilleure traduction dans ce passage, ce commandement ou cette loi, Bible de Jérusalem et la version du Semeur, cette fois, nous les utilisons peu souvent comme version, mais cette fois, ils ont davantage le bon contexte et la bonne traduction. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Cette loi, toute cette loi que Dieu a donnée, ses commandements, ses principes que Dieu a donnés, ce n'est point hors de notre portée. Ce code de loi n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Et qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession ou entrer en possession. Ce que ce passage démontre, c'est que notre Père Céleste nous a fourni le nécessaire pour réussir. Ces commandements sont à notre portée. Comme on dit en Amérique, la balle est dans notre camp. Autrement dit, à nous d'agir. Nous avons le nécessaire, nous avons ce qu'il nous faut. Et nous honorons plus spécialement nos mamans en cette fin de semaine qui leur est consacrée pour leur part dans cet enseignement. La mère joue un rôle clé dans la formation de l'enfant. En fait, dans notre monde moderne, c'est souvent elle qui a le plus d'influence sur l'enfant et qui décide davantage de son avenir. Derrière chaque bon chrétien et chaque bonne chrétienne, se cache généralement une mère qui a su s'acquitter humblement, parfois seule, et même souvent en mère célibataire et souvent dans l'ombre, de sa tâche souvent ingrate. Quand Dieu créa la femme, il créa aussi une mère. Et dans cette création très spéciale, il y avait un profond symbolisme. C'était loin d'être une simple nécessité reproductive. Le jour approche où cessera la compétition qui existe souvent aujourd'hui entre hommes et femmes. Nous savons à quoi cela est dû. Satan est, comme le dit l'Écriture, le Dieu de ce siècle. L'heure vient où le règne de Christ, sous le règne de Christ, va cesser cette guerre futile, destructrice et incessante entre les sexes. Un vrai chrétien ne cherche pas à dominer. Dans cette humble, dans cette lutte ancestrale, ou bien les hommes dominent les femmes, ou bien les femmes dominent les hommes. Et personne n'est gagnant et ce n'est pas la voie divine. Il y a une différence entre régner et dominer. les chefs des nations les tyrannisent, et les grands les asservissent, ou, comme le dit la Nouvelle Bible Second, les chefs des nations dominent sur elles en seigneurs, et les grands leur font sentir leur autorité. Autrement dit, ils dominent. Dominer, c'est généralement s'imposer à quelqu'un ou à d'autres, avec un air de supériorité, avec orgueil. Heureusement, nous n'en avons plus pour longtemps avec ce système. L'ère de l'homme touche à sa fin et un royaume juste et paisible, dont Christ sera le roi, est sur le point d'être instauré. Encore quelques efforts et nous y serons. Quand Dieu créa la femme, il créa aussi une mère. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève avait donc premièrement un rôle de procréatrice. Grâce à elle, l'espèce humaine allait pouvoir s'accroître. Mais Ève fut aussi créée pour être une compagne pour Adam. En hébreu, l'expression pour désigner est Ezer Gnegdo, qui signifie aide semblable, une aide semblable, une aide qui lui corresponde. Le mot Ezer et ses dérivés sont la plupart du temps utilisés pour Dieu. Ève était l'aide parfaite de Dieu pour Adam. Elle fut formée à partir de ses côtes. Les côtes protègent les organes vitaux que sont principalement le cœur et les poumons, vitaux pour la vie. C'est dire toute son importance auprès de son mari. Ainsi, la femme est le moyen que Dieu a choisi pour entourer son mari, l'aider, le soutenir de façon efficace. Le nom Ève vient du terme hébreu Shava, qui signifie vivante ou vie. Ce terme était déjà symbolique. La femme donne la vie. Elle était un type. La Bible parle d'une autre mère qui, elle aussi, donne la vie. Dans Galates chapitre 4, verset 26, Galates 4, 26, Paul parle de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Dans ce symbolisme, Paul évoque le rôle maternel de l'Église. C'est là une très riche analogie. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui blasés et réagissent même avec un certain cynisme quand ils s'entendent dire que l'Église est pour nous une mère. Une telle notion nous rend-elle, nous aussi, cyniques, désabusés, moqueurs? Qu'a-t-elle fait pour nous? Quels avantages avons-nous tirés de notre affiliation avec elle? Pour ma part, je trouve que l'Église m'a énormément apporté. Et si j'entends des cris moqueurs, peu m'importe. L'ingratitude est un cancer qui ronge bien des êtres aigris, déroutés. Sans l'Église, instrument entre les mains de Christ pour nous amener à la perfection, nous modeler à son image, nous insérer dans sa famille et nous immerger avec amour dans la fraternité des prémices, et j'en passe, sans elle, nous ne sommes rien. Puissions-nous ne pas être ingrats, sachons apprécier honnêtement tout ce que l'Église a fait pour nous. Et je parle de l'Église dans son sens spirituel. Je vous vois venir, je vous entends. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, Paul décrit l'Église comme la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Le rôle de la mère est aussi d'être une colonne, un pilier, un monument de stabilité, de constance, d'être solide, de dispenser droitement la parole de la vérité, pour reprendre une expression dont s'est servi Paul dans 2 Timothée 2,15. Et nous avons de beaux exemples en ce sens dans l'Église. L'Église de Dieu est donc la colonne et l'appui de la vérité. La fête des mères honore les mamans pour le rôle énorme qu'elles jouent dans le développement des futurs enfants de Dieu. Mais honorons-nous l'Église pour le rôle maternel merveilleux qu'elle joue pour nous dans nos vies? Si au fil des années, l'Église, avec ses êtres humains imparfaits, nous a parfois déçus, rappelons-nous qu'elle représente néanmoins un organisme spirituel, qu'elle est formée des vrais chrétiens, des appelés, des fidèles, accompagnée souvent de faux chrétiens et d'inconvertis. Mais cela n'empêche pas le rôle magistral qu'a l'Église. Les organisations qui se donnent le nom d'Église de Dieu sont des organisations humaines, formées d'êtres humains faillibles. Il suffit de lire les messages adressés par Christ aux sept églises d'Apocalypse 2 et 3 pour le comprendre, pour s'en convaincre. Elles ont pratiquement toutes des péchés à éliminer. Mais leur chef est parfait. Dieu seul est juge, et nos critiques et nos condamnations s'avéreront de peu d'effet face au jugement divin, n'est-ce pas? Avons-nous trouvé le bon groupe? Avons-nous la bonne mère? Éprouvons-nous pour l'Église des sentiments positifs, une profonde tendresse même? Est-elle pour nous réellement une mère? Avez-vous le sentiment d'appartenir à une famille, à une fraternité chrétienne chaleureuse? Peut-être n'êtes-vous que de passage, toujours à la recherche d'une Église parfaite. Quel rôle joue pour vous dans la vie la vérité? L'Église nous dit l'Écriture est la maison de Dieu et la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a qu'une mère légitime. Il y a des moments où je puis m'empêcher de penser aux paroles d'Élie, adressées à des têtes de mule, à des bourriques, typiquement aux enfants d'Israël, dans 1 Roi chapitre 18. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Si vous souhaitez aller voir ailleurs, nous ne vous retiendrons pas. Nous préférons la qualité à la quantité. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Éphésiens chapitre 4 et le verset 4. Éphésiens 4, 4. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, sous-entendu une seule Église, aussi un seul baptême. Il n'y en a pas 36. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous n'avons pas plusieurs mères. Christ, dans Matthieu 16, 18, n'a pas, et je parle ici de mère spirituelle. Christ, dans Matthieu 16, 18, n'a pas dit qu'il bâtirait 16 églises, des centaines d'églises, mais son église. Il n'y a pas que les dames, il n'y a pas que dans les dames qu'il y a des vrais chrétiens. Ils sont éparpillés dans plusieurs groupes. Mais quant à prétendre que plusieurs églises, en tant que groupe, dispensent droitement toute la vérité, je n'irai pas aussi loin. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul corps, une seule mère spirituelle. À vous de faire ce que vous voulez, mais pour ma part, lors de cette fin de semaine où l'on honore les mamans, j'honore aussi pour ma part ma mère spirituelle, l'Église de Dieu, sans laquelle je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Est-ce à dire que j'ai toujours approuvé les décisions qui, au fil des années, ont été prises par divers responsables, ministres ou autres, Non. Mais Dieu m'est témoin que j'ai toujours cherché la vérité, ce qui m'a obligé à diverses reprises à effectuer des ajustements dans ma vie, à admettre mes torts, à rectifier le tir. Mais j'ai toujours recherché la vérité. Puis-je m'enorgueillir de quoi que ce soit? Nullement. Mais la vérité a toujours été pour moi ce qu'il faut à tout prix rechercher. Tout mensonge vient de Satan et de ses démons. Quiconque pratique le mensonge devra tôt ou tard rendre des comptes. Tôt dans ma vie, j'ai mesuré les pouvoirs destructeurs du mensonge. Et je me suis mis à rechercher la vérité, même quand elle fait mal. Sans doute cela a-t-il joué dans mon appel. C'est Dieu qui décide ce genre de choses, frères et sœurs. Jean chapitre 6 et le verset 44. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et Christ répète la même chose, pour ainsi dire, au verset 65, quelques versets plus loin. Jean 6, 65, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » L'Église de Dieu se compose des appelés. On est appelé ou on ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de décider, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons décider, en revanche, c'est si nous allons demeurer fidèles pour être tout compte fait un jour au retour de Christ, élus. On est appelé, on est fidèle et on devient élu. C'est une progression. Sur notre route se dressent des embûches, des obstacles, de l'incompréhension et même de l'hostilité, même au sein du corps de Christ. À quoi cela est-il dû? Christ nous l'a expliqué. Christ nous a mis en garde. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13 et le verset 24. Matthieu 13, 24, il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Plus tard, les disciples demandèrent à Jésus de leur expliquer ce qu'il avait voulu dire par cette parabole. Donc, au verset 37 à 43, nous avons l'explication. Verset 37, il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est notre futur roi, c'est Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, espérons-nous tous. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, et à nouveau j'espère qu'il s'agit de nous tous ici, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende, des oreilles pour entendre, entende. Dans pratiquement toutes nos congrégations, surtout si elles ont atteint un certain nombre de personnes, nous avons de l'ivraie. Ne vous laissez pas égarer par l'ivraie. Cette ivraie, notre histoire a démontré qu'elle peut être composée de ministres, de diacres et de simples membres. Frères et sœurs, gardez les yeux sur Christ. À nouveau, l'Église est un organisme spirituel. Nous devons comprendre cela à tout prix. Les dames, nous appelons les dames parce qu'il a fallu trouver un nom, mais c'est l'Église de Dieu. Ah, mais il y a pas mal d'églises de Dieu, mais ce sont des organisations humaines, mais qui représentent, dans lesquelles se trouve la vraie Église, qui est un organisme spirituel. Gardez les yeux sur Christ. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible, ne le ou ne la croyez pas. C'est pour cela que nous devons savoir ce qui est écrit dans la Bible. Que nous sachions ou non nous rappeler les versets. Ce qui compte, c'est que nous sachions quelle est la pensée de Christ. Au fil des années, bien des personnes m'ont dit « j'ai un mal fou à mémoriser les versets ». Ben, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, faites de votre mieux, mais ce qui compte, c'est surtout c'est que vous ayez la pensée de Christ, que vous pensiez comme lui. C'est ça qui compte. Nous avons des gens qui mémorisent la Bible, mais qui ne mettent rien en pratique. Alors, ce n'est pas cela qui compte. C'est bien, faites cela si c'est possible, mais tous n'ont pas cette mémoire. Ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est que vous compreniez les pensées de Christ, que vous pensiez comme Dieu. C'est ça qui compte. Nous avons deux mères, donc. Deux mères. Notre mère physique et notre mère spirituelle. Mesdames, vous les mamans, vous avez un rôle merveilleux, très symbolique, car vous êtes des types d'une réalité spirituelle, d'une gestation dont nous faisons tous partie, nous qui sommes les prémices. Le plan divin est merveilleusement évoqué dans la maternité. Frères et sœurs, oublions ce que le monde pense des mères. Il ne les honore guère de nos jours. Sauf peut-être lors de la fête des mères. Mais la vraie féminité et la vraie maternité sont des qualités bien rares de nos jours. Ayons donc à ce propos les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ. C'est cela à nouveau qui compte, comme je vous le dis souvent. Romains chapitre 8, verset 22. Romains chapitre 8 et le verset 22. Romains 8, 22. Remerciez votre mère spirituelle. Je ne parle pas d'un groupe d'humains, je ne parle pas d'un groupe humain, je parle de l'Église spirituelle, est-ce qu'elle vous a apporté au fil des années. Sans elle, vous ne serez rien et je ne serai rien. N'insultons pas Dieu, n'insultons pas l'Église à son niveau spirituel, à nouveau. C'est plusieurs groupes, l'Église est composée de tous les enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, des appelés. Alors oublions un peu ces organismes physiques. Mais l'Église ne vous a-t-elle pas apporté toute cette connaissance dont vous aviez besoin? Ne vous a-t-elle pas guidé au fil des années? N'insultons pas Dieu, n'insultons pas Christ. N'oublions pas notre vraie maman. La maman qui nous a formés, qui continue de nous former et grâce à laquelle nous pouvons croître. Romains chapitre 8, verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quelle belle image, quel symbolisme profond. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer ? Non, ce n'est plus nécessaire. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et il y a ici un parallèle avec la gestation, quand l'enfant se développe dans l'utérus de la maman. Il y a une longue attente. Nous, les parents, nous espérons aussi ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. J'ai été papa 5 fois. J'ai assisté à la naissance de tous mes enfants. 3 sont appelés, 2 ne le sont pas. Mais ils ont tous une jolie maman. Et une bonne maman. Je suis béni d'avoir l'épouse que j'ai. De même aussi, l'Esprit nous guide dans notre faiblesse, verset 26. car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des moments, vous savez, dans nos prières, on dit, je trouve pas les mots. Oh, Dieu sait exactement ce que nous pensons. Il peut lire dans notre tête, ne vous en faites pas, faites de votre mieux, mais parfois on ne trouve pas les mots qu'il faut. Et même ça, même Christ nous aide à, l'Esprit nous aide à nous exprimer. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas, vous ne comprenez pas. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mesurons-nous notre dépendance envers l'Église, livrée à, de nos jours, beaucoup de désinvolture, à créer beaucoup de désinvolture pour la mère spirituelle que Christ a formée pour ses frères et sœurs. L'Église a été fondée pour donner la vie, pour conduire les enfants de Dieu vers la vie éternelle. Pour mener à la gloire une multitude, c'est dans le sens de l'original, une multitude de fils et de filles. Hébreux 2:10. Il y a en tout cela un symbolisme riche de plusieurs parallèles. Et je ne sais si vous avez remarqué, mais Dieu est fort en symbolisme. Il se sert souvent de symboles. Pourquoi ? Parce que les symboles nous propulsent dans une autre dimension. Ils nous transportent de quelque chose de simple à quelque chose de profond. Ils amplifient, ils touchent davantage le cœur. On peut se rappeler par exemple de la porte, le symbolisme, je suis la porte. Bon, une porte, bon, ce n'est pas dans le sens que Christ donne à ce mot, il ne s'agit pas simplement d'une planche. Il s'agit d'un accès, qui nous ouvre la vérité, un accès vers la vérité. Bon, il parle du pain, le pain, et quand il parle du pain dans la Bible, c'est un symbole qui nous transpose dans une autre dimension. Il dit, nourrissez-vous de ce que je dis. Ce n'est pas un simple pain, une simple miche de pain, il va plus loin avec ce mot. Dieu est fort en symboles. Pourquoi ? Parce que les symboles vont plus loin. Le sel, même chose, le sel. Il y a des quantités de symboles que Dieu utilise dans sa parole parce que ces symboles sont puissants. Ils nous aident à aller à un niveau supérieur de compréhension. Nous vivons une époque charnière dans l'histoire de l'humanité et nous pouvons être certains que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ ont hâte de nous voir, de naître dans leur famille. Et cette naissance est une préparation grâce à l'Église qui est notre mère spirituelle, par excellence. Le rôle de l'Église est souvent sous-estimé. Beaucoup sautent d'un groupe à l'autre, sans vraiment s'attacher aux enfants de l'Éternel. Ne soyons pas séduits. Nous faisons tous partie d'un corps qui est formé comme un nouveau corps dans le sein de la mère et qui va naître un jour. Et il y a beaucoup trop d'indépendants de nos jours, bien trop de Robinson Crusoe et spirituels qui pensent sincèrement ne pas avoir à appartenir à la fraternité de l'Église. Et c'est tragique. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de l'Église. À nous de trouver la bonne, bien sûr. Si nous ne sommes pas capables de vivre en groupe, de fraterniser avec nos frères et sœurs en la foi, de vivre ensemble harmonieusement, nous ne serons pas dans le royaume. Car le royaume est une famille. Dieu veut de faire de nous sa famille. N'abandonnons donc pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'expérience humaine aura été hautement symbolique, source de nouvelles connaissances et de croissance, même pour les anges, même pour les anges. 1 Pierre chapitre 1 verset 12, 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Je vais le lire rapidement. Il fut révélé aux prophètes d'antan que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans ces choses. eux aussi, ils attendent, eux aussi, ils s'émerveillent de ce que Dieu fait par l'Église et dans l'Église. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque vous avez été appelés, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans votre conduite. Nous avons une grande responsabilité à cet effet. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Autrement dit, frères et sœurs, ne sabotez pas votre croissance, votre gestation spirituelle. Paul s'inquiétait déjà au premier siècle du manque de vision des brebis de l'Éternel. Ce manque de vision existe encore aujourd'hui dans le monde et il est même encore pire. Et ce manque de vision existe aussi parfois dans l'Église. Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4 et le verset 19. Nous nous reporterons à ce passage. Galates 4, 19. Vous savez, les Américains, ils ont une expression, ils disent « faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Souvent, on se débarrasse de quelque chose, on se dit « ah, ça vaut rien ». Et on oublie qu'il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses. Bon, il faut se débarrasser des mauvaises choses, mais pas se débarrasser des bonnes choses. Alors, on peut pas tout jeter par la fenêtre. Hein. Si nous avons été déçus par certains groupes que nous avons fréquentés, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Gardons ce qui est bon. Regardons ce qui est bon. Faisons preuve de sagesse et de discernement. Mes enfants, Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Les Juifs pensaient que la loi résolvait tout. Il faut aller beaucoup plus loin que la loi. Il ne s'agit pas d'éliminer la loi, mais eux pensaient que c'était presque magique. On observe la loi et ça avancera dans leur royaume. Oh, non. Les pharisiens voyaient les choses de cette façon, de façon typiquement humaine. L'Éternel nous demande de comprendre ses pensées à nouveau. Pourquoi ? Pourquoi il a donné cette loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Il y a le blé, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Rappelez-vous. Et les deux vont rester jusqu'au royaume. Ils vont rester ensemble. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, et c'est celle à laquelle nous appartenons, vous et moi, frères et sœurs, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. » Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Il y a tout un symbolisme merveilleux dans tout cela. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, sous-entendu en gestation, pas encore nés, mais en formation. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Il y aura un avorton qui n'aura pas la vie, et un fils qui lui naîtra et aura la vie. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes les enfants de la femme libre. Et j'ajouterais même de la mère libre. Voyons-nous la merveilleuse analogie, le profond parallélisme, la dualité qui existe entre le rôle de nos mères physiques et celui de notre mère spirituelle ? Je l'espère de tout cœur. La fête des mères est une occasion supplémentaire de nous réjouir de ce que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ accomplissent en nous. Nous savons tous généralement qui est ou était notre mère biologique. Mais nous sommes tellement bénis aussi d'avoir une mère spirituelle, dans laquelle nous nous développons tous ensemble, en tant que frères et sœurs, de manière à naître un jour dans la famille divine. Et j'espère que vous me comprenez là. Tous ne me comprennent pas. Tous ne comprennent pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Que nous sommes bénis d'avoir des frères et des sœurs avec qui partager nos joies et nos peines, qui nous encouragent et nous inspirent. Bénis d'avoir une famille. Notre naissance est pour bientôt. Gardons les yeux sur Christ. S'il nous faut souffrir, souvenons-nous des paroles de Paul. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces, au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Une très belle promesse. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. C'est Christ qui parle. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Et j'aime ce passage. Nul ne vous ravira votre joie. Paul ne se contente pas seulement de décrire ici le miracle de la gestation physique, il fait clairement allusion au miracle de notre gestation spirituelle. Il y a une très belle image en cela. Il faut savoir que Dieu est intensément impliqué dans tout ce qu'il fait. Il ne fait aucun doute qu'il a mis tout son cœur dans ce qu'il a créé, dans cette création spéciale. En créant l'humanité, Dieu a beaucoup placé de lui-même en elle. On voit cela quand on regarde les humains, il y a ce potentiel extraordinaire qui est mal utilisé pour le moment, mais il y a ce potentiel, il y a beaucoup de traits divins dans l'homme et la femme. Proverbes chapitre 1, versets 8 et 9, je lirai simplement ici. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Alors, bon, cela, nous pouvons le voir au niveau humain, et c'est pour les mamans, n'est-ce pas? Écoute l'enseignement de ta mère, mais voyons plus loin, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit au début, pensez plus loin, établissez des parallèles. Il y a ce parallèle merveilleux, cette analogie, hein, l'enseignement de ta mère. Qui est notre deuxième mère? Ou pourrions-nous dire notre mère principale? Nous avons notre mère biologique, mais la mère spirituelle. Qui est-ce qui vous a apporté toutes ces connaissances? Qui est-ce qui continue de vous nourrir spirituellement? Réfléchissez bien. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Ne rejette pas son enseignement. Ça ne va pas avec les Robinson Crusoe et spirituels qui s'imaginent être tout seuls. Hey, c'est juste entre moi et Dieu, puis le restant. Les Robinson Crusoe ne seront pas dans le royaume. Il est temps que nous apprenions à vivre ensemble en harmonie et nous souvenir que nous sommes une famille. Aimons-nous les uns les autres. Laissons tomber l'ivraie et nous devrions être capables de reconnaître l'ivraie. Ceux qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien, qui sont toujours en conflit avec une chose ou une autre, l'ivraie. Laissez tomber l'ivraie, frères et sœurs. Je parle ici aux vrais chrétiens, aux vraies prémices. Ne nous contentons pas seulement ici de réfléchir à l'enseignement de nos mères biologiques et humaines, mais profitons aussi de l'occasion pour nous réjouir de ce que notre Père Céleste est ce qu'il accomplit par l'intermédiaire de notre mère spirituelle. Christ accomplit des merveilles, nous nourrissant spirituellement. Maintes publications, maints sermons, des assemblées où tous les membres de ce corps en gestation se développent. Nous avons tous la même mère. Nous sommes membres les uns des autres. Apprenons à nous aimer d'un amour sincère, fraternel. à nous apprécier les uns les autres. Il y a dans l'Église, notre mère spirituelle, beaucoup d'amour fraternel. Un amour fraternel qui n'est pas toujours évident, c'est vrai, surtout pour l'ivraie dont parlait Jésus, mais que les vrais enfants de Dieu ressentent. L'Église, ne l'oublions pas, est un organisme spirituel, composé des appelés, qui sont aussi fidèles et qui sont en passe de devenir élus lors de la résurrection. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La femme, la mère, offre en quelque sorte un peu son corps comme un sacrifice vivant quand elle porte en elle un enfant. Ne vous conformez pas au siècle présent, et vous pouvez lire le restant. Je n'ai pas le temps de lire tout cela, mais en cette fin de semaine, nous nous interrogeons sur l'une des plus grandes merveilles que Dieu accomplit. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Est-il écrit dans Ecclésiaste 11, Ecclésiaste 11 et le verset 5. La plupart des organes commencent à se former à environ 3 semaines après la fécondation, ce qui équivaut à 5 semaines de grossesse. Peu à peu, la zone qui deviendra le cerveau et la moelle épinière commencent à se former dans le sein de la mère. Le cœur et les principaux vaisseaux sanguins commencent à se développer vers le 16e jour. Le cœur commence à pomper du liquide dans les vaisseaux sanguins à partir du 20e jour. Et les premiers globules rouges apparaissent le jour suivant. Les vaisseaux sanguins continuent à se former au niveau de l'embryon et du placenta. Presque tous les organes sont complètement formés autour de la 10e semaine après la fécondation, ce qui correspond à 12 semaines de grossesse. Les exceptions sont le cerveau et la moelle épinière qui continuent à se former et à se développer tout au long de la grossesse. À 8 semaines de grossesse, le placenta et le fœtus se sont développés pendant 6 semaines. Le placenta forme de fines projections capillaires, des villosités, qui pénètrent dans la paroi de l'utérus. Les vaisseaux sanguins de l'embryon passant à travers le cordon ombilical vers le placenta, se développe dans les villosités. Une fine membrane sépare dans les villosités le sang de l'embryon du sang de la mère qui s'écoule à travers l'espace entourant les villosités, l'espace intervilleux. Cela permet l'échange de matériaux entre le sang maternel et celui de l'embryon, d'empêcher le système immunitaire de la mère d'attaquer l'embryon, car les anticorps maternels sont de taille trop importante pour traverser la membrane. Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l'organisme contre les substances étrangères. L'embryon flotte dans le liquide amniotique, qui est contenu dans un sac, le sac dit amniotique. Au bout de la 8e semaine après la fécondation, l'embryon devient un fœtus. À ce stade, les structures déjà formées grandissent et se développent. Les éléments suivants sont des marqueurs durant la grossesse. À 12 semaines de grossesse, le fœtus remplit l'utérus. À environ 14 semaines, le sexe peut être identifié. Entre 16 à 20 semaines environ, en général, la femme enceinte peut ressentir le mouvement du fœtus. Les femmes qui ont déjà été enceintes perçoivent les mouvements 2 semaines environ avant celles pour qui c'est la première grossesse. À environ 24 semaines, le fœtus peut survivre en dehors de l'utérus. Le processus de maturation pulmonaire se poursuit jusqu'à l'accouchement. Le cerveau accumule de nouvelles cellules pendant toute la grossesse et la première année de vie après la naissance. Quelle merveille, quelle merveille! Que Dieu est grand! Rejetant toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveaux, nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, est-il écrit. Et pensez aussi au corps, à cette merveilleuse analogie du corps humain. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Reportons-nous à 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 4. Vous savez, il est grand temps que nous comprenions que nous faisons tous partie d'une fraternité, que nous faisons tous partie de la famille. Oubliez les mauvaises herbes. Oubliez le chien-dent qui est avec nous toujours. Oubliez, ayons les yeux fixés sur Christ. Le jour approche de notre délivrance. Sachons nous concentrer sur ce qui est réellement important. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il n'y a pas 36 esprits à nouveau. Diversité de ministères, 1 Corinthiens 12, 4. Diversité de ministères, verset 5, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À nouveau, nous faisons tous partie d'un corps. L'Église est quelque chose de merveilleux. L'Église est une mère. Et c'est Dieu qui l'a créée. Et alors, si vous lisez le restant du passage, vous verrez qu'il y a divers dons, que nous avons tous des dons différents, que nous avons tous quelque chose à apporter. Verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voilà comment Dieu voit les choses. Est-ce que nous voyons les choses à sa façon? Le rôle de la mère est énorme. Il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça, c'est Proverbe 22, 6. Ce qui compte ici, c'est de bien comprendre le passage. Ça ne garantit pas que lorsque votre enfant, vous l'avez enseigné comme il faut, il va rester automatiquement dans l'Église. Non. Ça veut dire qu'il faut que vous lui enseigniez sa voie en fonction de son caractère, de sa personnalité, et que quand il sera vieux, si vous le guidez dans la bonne voie, pas nécessairement dans l'Église, tous ne sont pas appelés aujourd'hui. Comme je le disais, nous avons 3 enfants qui sont dans l'Église et 2 qui ne le sont pas. Et nous les avons éduqués exactement de la même façon. Mais les 2 autres, les 2 aînés qui ne sont pas dans l'Église, ont toujours malgré tout une certaine connaissance. Ils ont des principes qu'ils utilisent dans la vie. La mère est avant tout une éducatrice. Comme nous l'avons vu il y a quelques minutes dans Proverbe 1, versets 8 et 9, elle a pour tâche principale d'enseigner. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » À nouveau, quelque chose que l'on peut diriger dans le domaine spirituel, il y a une très belle analogie là. Beaucoup de nos dames dans l'Église correspondent à la description suivante. Et il est écrit dans Proverbe 31, le fameux chapitre sur la femme vertueuse, Proverbe 31, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. » Mesdames, nos mamans, vous faites un excellent travail en ce domaine. Et nous vous en sommes reconnaissants. Nous vous en sommes reconnaissants. Et Dieu aussi. L'Église, notre mère spirituelle, nous forme aussi. Nous édifie, nous fait croître, nous enrichit spirituellement. À nouveau, pensons à l'Église en tant qu'organisme spirituel. Pas à ces décisions humaines qui sont imparfaites, pas à ces humains qui sont imparfaits, mais pensons à l'Église en tant qu'organisme spirituel. Rappelez-vous, c'est l'Église de Christ. Le chef, c'est Christ. C'est lui qui est à la tête de l'Église. Lorsque vous avez trouvé le bon groupe qui vous dit la vérité, accrochez-vous, ne perdez pas de temps. Souvenez-vous que vous faites partie d'une fraternité, que nous sommes une famille. Comme le disait Salomon, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, une récompense. Voilà ce que Dieu pense. Voilà quelles sont ses pensées à ce sujet. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La mère console. Une mère, c'est un être qui console. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Une belle promesse pour nous tous. Je voudrais maintenant que nous nous reportions à un passage. L'apôtre Paul nous a laissé un exemple formidable de ce que doit être le ministère. Et nous nous efforçons de l'imiter. Cet exemple évoque l'amour maternel et l'amour que Dieu a pour ses enfants en gestation. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 3. 1 Thessaloniciens 2 et le verset 3. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. À nouveau, nous essayons, nous autres, dans l'Église de Dieu, Association mondiale, nous essayons de notre mieux d'imiter ce que Paul dit ici. Oh, imparfaitement, c'est vrai. Mais notre cœur y est, et nous recherchons toujours la vérité. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. « Hé, tu m'écoutes, c'est moi qui suis le chef. » Non, nous n'avons pas essayé de faire cela. Nous n'essayons pas de faire cela. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous et nous avons une vive affection pour vous. Non seulement vous donnez l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Vous savez, le ministère n'est pas facile, ce n'est pas une tâche facile. Il y a des grandes bénédictions qui s'accrochent à ce ministère, mais ce n'est pas facile. Sachez apprécier vos ministres, vos pasteurs qui sont toujours là pour vous 24 heures sur 24. Lorsque vous avez besoin de quelque chose à l'hôpital en plein milieu de la nuit, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous nourrir, pour vous aider, pour vous conseiller. N'oubliez pas ces choses. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme des paroles des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il est temps que nous traitions l'Église comme la mère aimante qu'elle est. À nos dames et à nos mamans qui font un si beau travail, nous vous souhaitons une joyeuse fête des mères et nous joignons nos louanges et notre affection à la plus belle de toutes les mères, la future épouse de Christ, l'Église. Et reportons-nous pour terminer à Ésaïe chapitre 66, Ésaïe chapitre 66 et le verset 9. Ésaïe 66 et le verset 9. Ésaïe 66, 9. « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ?» dit l'Éternel. « Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter ?» dit ton Dieu. « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. » afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi, par l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. comme la maman. Vous serez porté sur les bras comme la maman et caressé sur les genoux comme le font ou l'ont fait nos mamans. Comme un seul homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolé dans Jérusalem. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. À nouveau, belle fête des mères pour nos mamans que nous apprécions énormément, qui font un très bon travail dans la plupart des cas. Je vous souhaite bon courage, je vous dis au revoir et à bientôt.